Cours de métaphysique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 13 novembre 2001.
Petite question. La première dimension de la personne, c'est l'autonomie. Comment puis-je devenir autonome? Vous l'êtes. Vous en apercevez peut-être pas. Vous n'avez pas conscience de votre autonomie. Faites attention, c'est différent. Hein. Avoir conscience de son autonomie et avoir l'autonomie. Puisque vous avez une âme créée par Dieu, vous êtes donc autonome. Personne n'a créé votre âme, sauf Dieu. Alors que vous êtes dépendant du milieu, c'est la conscience. Vous voyez, c'est très cru chez les enfants. Ben, il y a l'âge de l'autonomie, comme disent les psychologues, tu vois, à 4 ans. Avant, ils se laissent prendre. Il y a 24 ans, il commence à nier. C'est la négation. À quel âge vient la négation? Elle vient vite, ce que la négation. Et elle reste. C'est la dernière chose qui meurt. Dans notre monde d'aujourd'hui. Et pour Sartre, elle est première. Et ça, c'est bien d'une laïcisation de la théologie. Parce que la théologie est premièrement négative. Dieu n'est pas la créature. Dieu n'est pas ce que vous êtes. Bon, la théologie implique la négation dans l'affirmation de la foi qui est positive. Hein. C'est ça qu'on oublie. Et quand vous ne voyez plus que la théologie est à partir de la foi, la négation l'emporte. Alors, nous avons un philosophe où la négation l'emporte, c'est bien Sartre. Et Sartre exprime là quelque chose de très profond. L'expérience que j'ai faite, que j'ai aimé de faire, de prêcher souvent des retraites, de fin d'études, c'est très intéressant, et de voir là une jeune fille de peut-être 16 ans, 17 ans, affirmant que la négation est première, et fortement. Là, je suis passé à l'amour et la haine, affirmant que la haine est première. Et c'est très significatif, ça. Une culture, et Sartre a joué beaucoup là-dedans, une culture où la négation est première. Vous voyez, il n'y a plus d'espérance. On cherche partout, on cherche par le fait même à dégringoler moins vite. Toute l'espérance, c'est dégringoler moins vite. Bon, alors, la première dimension de la personne, c'est l'autonomie. Comment puis-je devenir autonome? Chacun d'entre nous, nous avons une certaine autonomie. L'enfant, très vite, il l'affirme, il la veut son autonomie. Quand il dit non, le premier non, l'enfant, c'est très significatif. Je suis dans le devenir, là. Je deviens autonome. Autre chose est l'autonomie au plan métaphysique. Autre chose, le fait de devenir autonome. Ça, c'est la pédagogie. Mon cours de métaphysique n'est pas la pédagogie. Non, mais il faut bien distinguer, quoi. Parce qu'on brûle tout. Acquérir, c'est la chose. Mais non, il y a une réalité qu'on acquiert. on acquiert une certaine autonomie. Et il y a des gens qui ont plus ou moins d'autonomie. Comment comprendre son devenir qui conduit à l'autonomie ? Bon, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'autonomie pour comprendre le devenir. Bon, l'autonomie, c'est la possibilité de s'orienter de diverses manières et le faire par nous-mêmes. Qu'est-ce qui est au fond votre autonomie ? C'est votre âme, c'est votre substance qui vous donne une autonomie fondamentale. C'est que vous ne dépendez pas de votre voisin quant à votre âme. Vous ne dépendez pas de votre voisin quant à votre substance. Comment ça, vous pouvez l'écrire ? Du moins, vous pouvez le comprendre. Vous êtes tous censés avoir fait une philosophie du vivant. Vous êtes tous censés comprendre que l'âme existe. Si, pour vous, vous mettez à douter que l'âme existe, il faudrait le dire, pas en public, mais il faudrait le dire à votre directeur spirituel, parce que c'est très grave. Oui. Peut-il y avoir encore une direction spirituelle si l'âme n'existe pas ? C'est l'âme qui est baptisée, c'est pas votre corps. C'est l'âme qui est baptisée, c'est l'âme qui reçoit la grâce. Alors dire, mais ça vient aujourd'hui ça, on sait que c'est dans l'air, l'âme n'existe pas, donc il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas de substance. On est un troupeau. On dépend de diverses influences. Bon, on tend vers ça. Il faut voir que tout est orienté vers ça. Vous voyez, parce que tout est politisé. Alors, il faut le distinguer. Il faut arriver quand même à comprendre que la métaphysique touche l'être. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans votre être ? C'est votre substance, qui pour vous est votre âme. Mais ce n'est pas la même chose d'affirmer substance et affirmer âme. L'âme, elle est principe de vie. La substance est principe d'être. Il faut arriver à distinguer l'être et la vie. Et c'est pas comme tu sais bien. Ça a mis plusieurs siècles à arriver à faire ces distinctions-là. Et il faut arriver à la faire. Et dans certains pays, c'est plus difficile. Je suis persuadé qu'en Afrique, c'est beaucoup plus difficile parce que la vie est quelque chose de très fondamental. Nous, il y a plus longtemps, alors. On comprend que la distinction se fait peut-être plus facilement, mais on est aujourd'hui sur le point de nier cette distinction, puisqu'on nie la métaphysique. On ne l'accepte pas. On n'a jamais compris que l'être était distinct de la vie. Parce que ma vie, c'est mon être. Alors, parce que ma vie, c'est mon être, on ne distingue plus la vie. Vous n'avez jamais vu un être aussi parfait que l'homme sans qu'il soit vivant. Ah, parce que vous n'avez jamais vu la vie, l'être séparé de la vie. Il faut aller dans la Lune. Les cosmonautes ont cherché la vie dans la Lune et l'ont pas trouvée. Dans la Lune, l'expérience de la Lune, qu'on a tous fait, que notre humanité a fait, dans les grâces aux cosmonautes, ils ont distingué l'être et la vie. Le soleil, il n'est pas vivant, il est. l'illusion de l'être et la vie est une réalité palpable. Et c'est très important, parce que actuellement, on est dans une tentation de tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas vivant en nous n'est pas. L'autonome s'oppose à toute dépendance, ce qui ne fait pas le devenir. L'autonomie s'oppose. Oui, l'autonomie s'oppose à toute dépendance. C'est un peu trop affirmatif. Hein. L'autonomie et la dépendance peuvent être pris en position dialectique, c'est très vrai. Mais ce sont deux choses différentes. Quel est le domaine le plus fondamental? Est-ce la dépendance ou l'autonomie? C'est la puissance et l'acte. Quand vous êtes en puissance, vous êtes dépendant. Quand vous êtes en acte, vous êtes indépendant. La petite expérience que vous faites. Vous faites ça constamment. Au moment des élections, comme vous ne faites pas beaucoup de politique, vous demandez à des gens compétents, tel candidat, qu'est-ce qu'il est? Si vous étiez très compétent, vous n'auriez pas demandé. Vous auriez l'autonomie. Vous voyez? Faites des petites expériences, mais très importantes pour nous. Quelles sont les limites de votre autonomie? Et en même temps, vous décelez une autonomie radicale. Vous avez l'expérience de l'obéissance, j'espère. Ayant l'expérience de l'obéissance, vous avez l'expérience de la dépendance, acceptée librement. Et cette expérience, la dépendance acceptée librement, vous fait comprendre par le fait même la différence avec l'autonomie. L'autonomie, je peux me décider, je peux m'orienter comme je veux. Quand vous êtes entré dans la congrégation Saint-Jean, vous avez fait un acte d'autonomie, j'espère. Vous avez dit, j'entre. Et peut-être que vos parents disent, oh, c'est trop vite, trop rapide, puisque tu es sûr. Puis les amis, quand ils sont... Et vous avez dit, non, j'entre. Je décide l'orientation de ma vie. Quand vous voyez quelqu'un qui se fiancie à quelqu'un, vous dites, tu es bien sûr que c'est elle qui doit t'accompagner toute ta vie jusqu'à la fin? Normalement, celui qui se marie fait un acte autonome. S'il fait un acte de dépendance parce que sa mère ou son père n'était pas d'accord qu'il se marie avec elle et on va se suicider, alors pour éviter le suicide des parents, on se marie à une autre. Et ça ne marche pas, et là on va supprimer. C'est ce mariage était forcé. Alors on ressort l'argument. Oui, on est tout le temps dans le dilemme autonomie et indépendance. Et il faut y réfléchir philosophiquement. Il y a en nous une racine de notre autonomie. Et la racine de notre autonomie, c'est la substance. La substance ne dépend que de Dieu. Philosophiquement, je peux le dire. La substance ne dépend, mon âme ne dépend que de Dieu. Je suis dépendant constamment, c'est évident, je le sais. Mais je sais qu'il y a une autonomie fondamentale et foncière. Et ça, c'est beaucoup. Il faut la découvrir. C'est, vous faites de la philosophie pour découvrir votre indépendance, votre autonomie fondamentale. Vous faites de la philosophie pour ça. Ça, c'est sûr. Et au fond, il n'y a que ceux qui ont vraiment atteint la substance qui sont autonomes. Les autres, on peut les mettre avec moi. Pourquoi veut-on aujourd'hui supprimer l'âme ? Supprimer l'âme, ce n'est pas le supprimer, mais supprimer l'affirmation « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Bon, on veut supprimer cette affirmation dans l'âme. Et des grands savants affirment que l'âme n'existe pas. Alors on a à répondre à ces savants, c'est pas étonnant. Si la science est tout, vous ne découvrirez jamais l'âme par la biologie. Vous découvrirez des êtres vivants, c'est tout. Le bœuf est un être vivant, le singe aussi, et l'homme parmi eux. Il est vivant. L'âme a un principe de tout. Oui, c'est pour ça qu'on veut supprimer l'âme, qu'on veut ne plus en parler. Je dis que j'étais à Fribourg, professeur de philosophie de Lausanne, que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup, et me dit, tous mes étudiants et étudiantes refusent la distinction de l'âme et du corps. Parce que pour eux, l'âme n'existe pas. Est-ce que vous ne pourriez pas leur montrer philosophiquement qu'on doit affirmer l'existence de l'âme ? Elle dit, je ne peux pas vous inviter à l'université, ce serait un scandale qu'un catholique vienne à l'université de Lausanne protestant, ce serait pas bien. Surtout un religieux. Vous seriez laïque, vous pourriez venir en tant que religieux. Non, obstacle. Alors, si vous voulez, je vais réunir tous mes étudiants chez moi le soir. Puis on passera une soirée ensemble. Peut-on philosophiquement affirmer que l'âme existe ? C'est intéressant. Et c'est vrai, je me suis trouvé devant, j'étais peut-être 30, 40, tous affirmaient que l'âme n'existait pas. Ils étaient tous protestants. Ils affirmaient que l'âme n'existait pas. La première question, quand j'étais à Athènes, peu de temps après la guerre, il y avait une invitation pour visiter les gens. Tous les professeurs de philosophie sont venus autour. J'ai dit qu'on aimait beaucoup la Grèce, parce que la Grèce était quand même le berceau de la philosophie occidentale. Très vite, m'ont posé cette question. Peut-on affirmer philosophiquement que l'âme existe ? C'était tous croyants. Ils étaient tous orthodoxes. Peut-on affirmer philosophiquement que l'âme existe ? Alors quand j'ai dit oui, qu'on pouvait affirmer, puis on a cité, discuté ensemble. Ils étaient soulagés. Ils croyaient que on pouvait dire que seulement par la foi, on affirmait que l'âme existe. Il y a sûrement une grande montée philosophique, anti-philosophique, une grande montée très nette, pouvoir affirmer l'âme n'existe pas. Vous voyez, c'est très, très profond ça, parce que dès que vous supprimez que l'âme n'existe pas, évidemment, tout fut choquant, hein. Toute votre théologie. un sursis dans l'âme, un poursuit dans le corps. Et le démon attaque par le fondement. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre que nous allons dans une civilisation qui va saper radicalement la grâce. Le progrès de la science est utilisé pour supprimer toute pensée philosophique. Et dans la pensée philosophique, la première chose qu'on va attaquer, c'est l'existence de l'âme. Alors, on a conscience, mais la conscience, c'est pas l'âme. Hein. On distingue les deux. Parce que pour affirmer l'âme, oui, c'est de la métaphysique. Hein. Vous n'avez jamais vu votre âme. Donc elle n'existe pas. Vous l'avez jamais vue. Où est-ce qu'elle est, votre âme? Il faut pouvoir affirmer un principe d'être et de vie que nous possédons en nous et qui est le principal de notre vie. Alors, nous l'affirmons par la foi, mais nous devons arriver à l'affirmer par la philosophie, l'expérience. L'affirmer par la philosophie. Parce que si vous acceptez que l'âme n'existe pas, tout fuge le camp. Principe d'autonomie. Votre âme est créée par Dieu. Et ne peut être que créée par Dieu. Je crois que ça, c'est quand même très, très important. L'autonomie s'oppose à toute dépendance. Non, je ne dis pas du tout que l'autonomie ne s'oppose pas. C'est la dépendance qui s'oppose à l'autonomie. L'autonomie, elle s'oppose à rien du tout. Elle est l'autonomie, elle est première. Bon, on vous ligote parce que vous êtes indépendant et que vous avez la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Alors on vous met des petites barrières. La loi existe pourquoi ? Pour montrer qu'on ne peut pas aller aussi bien à droite qu'à gauche, à gauche aussi bien qu'à droite. Et donc il faut toujours regarder qu'est-ce qui est premier. L'autonomie s'oppose. L'autonomie ne s'oppose pas. Elle vous libère. Ce qui ne fait que ce que fait. Alors, comment découvrir l'autonomie? On découvre l'autonomie par des actes que nous posons. Qui sont libres, qui ne sont pas dépendants, des actes d'obéissance, ils sont dépendants de quelqu'un. Donc c'est pas par là que vous découvrez votre autonomie. Vous découvrez votre dépendance. Mais vous découvrez votre dépendance et vous verrez que votre dépendance est limitée. Alors c'est par là peut-être que vous pouvez arriver à découvrir l'autonomie. Vous voyez que votre dépendance est limitée. Elle a des limites. Elle vous impose des limites. Et en dehors de ces limites, vous respectez. Réfléchissez sur tous les actes d'obéissance que vous avez posés. Et quand vous avez mis quand vous respectez devant un acte d'obéissance, c'est que vous vous dites oh, je vais m'imposer ça, mais pas plus loin. Là, je suis autonome. Chaque fois que vous résistez à un acte d'obéissance, vous affirmez « je suis autonome ». Et vous découvrez petit à petit votre autonomie. Quelque chose de très fondamental, ça repose sur mon âme. La philosophie, elle doit tout le temps se ramener à notre expérience. Tout le temps. Il faut creuser notre expérience pour qu'elle touche la métaphysique. Alors à ce moment-là, on comprend que la philosophie est essentielle à notre connaissance et à notre connaissance de nous-mêmes. Peut-on comprendre philosophiquement pourquoi Dieu a créé l'homme ? Comprenez. On doit affirmer que Dieu a créé l'homme par pure gratuité. Voilà ce que le philosophe peut dire. Par pure gratuité. Par surabondance d'amour, et non pas par nécessité. Si c'était par nécessité, Dieu ne serait pas Dieu. Il ne serait pas l'être premier, l'être suprême. Vous découvrez Dieu comme l'être suprême. Et donc la qualité première de Dieu, c'est d'être Dieu. Indépendant de tout. Il y a la souveraine indépendance. Et que si Dieu crée, c'est un acte de volonté, un acte d'amour, absolument libre de sa part. Personne n'a pu exiger à Dieu de créer. Et la grande différence avec Hegel, Dieu crée pour être Dieu. Vous avez un esclave pour montrer que vous êtes un homme libre. Prenez cet exemple-là. C'est idiot. C'est pas l'esclave qui me fait comprendre que je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Et parce que je suis un homme libre, je peux avoir un esclave. C'est exactement ça, dire « Oh Dieu, crée pas nécessité. » Alors, Dieu n'est que parce qu'il agit en Dieu. Il est libre de créer. Il est liberté. Pour bien comprendre cette autonomie, c'est ce que je pensais faire ça aujourd'hui. Pour bien comprendre cette autonomie, regardons que notre philosophie occidentale a commencé par Aristote en disant ceci est. Et dans notre philosophie occidentale, il y a eu des théologiens. Puisque ça a commencé par des théologiens. Il y a eu des théologiens qui ont dit que le commencement de toute pensée était « je pense ». Ceci dès le XIVe siècle. C'est un théologien qui a affirmé que l'acte premier de sa vie de philosophe et de chrétien, c'était un religieux franciscain. Et je pense, et j'aime Socrate. Alors ça c'est très important, ça a été de fait quelque chose qui a fait un bouleversement complet. C'est-à-dire que le commencement de la vie, c'est « je pense ». Hegel, qu'est-ce qu'il dit ? Quel commencement de sa philosophie ? Sa pensée. Sa pensée, il commence de la philosophie. Alors, du XIVe siècle à notre monde aujourd'hui, c'est Hegel qui dirige aujourd'hui la plupart des pensées. Et c'est pour ça que même l'Institut catholique de Lyon veut être hegelien et veut se mettre sous la coupe d'Hegel, parce que c'est à la mode. Et puis aussi, alors, plus que ça, c'est aussi quelque chose de très grand de pouvoir dire « je suis ». Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. C'est dit au XVIIe siècle. Cogito ergo sum, Descartes. Vous voyez ces deux affirmations. Philosophie, deux points de départ. Un point de départ tout à fait objectif, celui d'Aristote. Un point de départ tout à fait subjectif, celui de Descartes. Parce que le théologien, seuls les théologiens le connaissent, les philosophes ne le connaissent pas du tout. Ils ne voient pas que Descartes ne fait que répéter ce qu'un théologien avait dit avant lui. Et tout de suite. Et Luther ne voit pas qu'il fait de répéter ce qu'un théologien catholique a dit avant lui. Je crois qu'on doit être très attentif à ça. C'est vrai que notre philosophie occidentale, il y aurait le même phénomène à voir dans l'Inde. Je ne connais pas suffisamment la philosophie de l'Inde, mais je connaissais très bien quelqu'un qui connaissait très bien la philosophie de l'Inde, et on parlait souvent ensemble, parce qu'au fond, il y a deux philosophies, l'une objective qui affirme ceci est le premier, et l'autre subjective qui affirme premièrement le cogito. Donc c'est un phénomène humain. Si l'Inde et notre philosophie occidentale se rejoignent là, et on pourrait du reste nous voir dans Platon, on voit déjà ça. C'est un phénomène humain. Le premier. Ce qu'il y a de premier dans la philosophie. Est-ce que c'est affirmer ceci est ou je pense? Je crois qu'il y a être très attentif à ça. Ceci est. C'est l'éveil de mon intelligence. J'affirme que l'autre existe. Qu'il est. Et que je dois respecter. Et l'autre, commencement de la philosophie, c'est d'affirmer « j'existe ». Cogito. C'est très très curieux ça. Et c'est très intéressant à noter. Gilson l'a noté à sa manière, très nettement, quand il fait l'histoire de la philosophie européenne, en voyant que où on affirme en premier lieu l'autre, on affirme en premier lieu soi. Je crois que ça reste très humain. Mais une catégorie, je ne dis pas de droite et de gauche, mais ceux qui affirment en premier lieu ceci est je suis. Et ça, c'est peut-être deux commencements. Je dis deux commencements où il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quand je dis je suis, il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'être. Quand vous dites ceci est, il y a la découverte de l'être. Alors, le je suis est très intéressant pour une découverte nouvelle de l'être. Si le je suis présuppose ceci est, c'est très bien. Si le je suis étouffe ceci est, ça conduit à un immanentisme absolu. Et c'est dans les conséquences que je vois qu'il ne peut pas être premier. Mais il y a quelque chose de très important à voir dans le « je suis », l'affirmation du « je suis ». Il y a quelque chose de nouveau au point de vue de l'être. Vous n'avez qu'à voir tout simplement et réfléchir sur « ceci est ». Quand vous dites « ceci est », le « ceci » est relatif à l'être. Quand vous dites « je suis », le verbe est relatif à l'affirmation « je ». Voyez ? Il y a un mouvement inverse. « Ceci est », tout est ordonné à l'être. Quand vous dites « je suis », le verbe est ordonné au « je ». Donc, il y a deux manières de saisir l'être. Une manière objective, une manière subjective. Vous savez qu'affirmer l'objectivité avant ne nuit pas à affirmer la subjectivité. Mais si j'affirme la subjectivité avant, je m'empêche de sortir de moi. Donc, c'est normal de trouver deux types de philosophie. Une philosophie qui affirme le primat du je, une philosophie qui affirme le primat de l'être. Le je, c'est évident, l'expérience la plus parfaite que vous avez de l'être. Vous n'avez aucune expérience aussi parfaite de l'être que lorsque vous avez l'expérience de votre pensée. Je. Et c'est parce que justement cette expérience du je est si parfaite, si absolue, on s'y arrête. Et qu'on risque de considérer cela comme le commencement de la philosophie. Je suis. Je pense. Quand vous dites je suis, je pense. C'est votre pensée qui est présente dans votre je suis et votre pensée vous donne l'intelligibilité la plus parfaite du je suis. On est donc en présence de deux absolus. Tout, c'est de mettre un ordre dans ces deux absolus. Ceci est, n'exclut pas le « je pense ». Je suis. Et le « je suis » tend à exclure ceci est. Parce que si ceci est m'intéresse, c'est parce que je suis. Donc il est dépendant du « je suis ». Alors, il faut donc respecter ce qu'il y a d'original dans l'affirmation « je suis ». Ce qu'on n'a peut-être pas assez fait. Parce qu'on a tout de suite regardé « je pense, donc je suis » comme un absolu. Et comme s'opposant à ceci est. Si maintenant, en prenant du recul, je vois que je pense me donne une connaissance originale de l'être, à ce moment-là, je suis ne nuit pas à l'affirmation ceci est, mais vient après. Je peux connaître l'être de deux manières, objectivement, j'entends en frappe, d'objectif, parce que je pouvais dormir et penser que c'était moi-même qui frappais, ceci est. Alors, la connaissance objective de l'être, et la connaissance subjective de l'être. Or, la connaissance subjective, il faut bien le reconnaître, a un avantage énorme. Puisque l'objet, je le porte en moi. Et donc, je le connais. De façon beaucoup plus parfaite que lorsque j'ai la connaissance subjective, ceci est. Et je crois que ceci, c'est très important d'y réfléchir. Vous avez donc deux connaissances de votre autonomie. Une connaissance subjective à partir de ceci. Je suis. Je suis, et du fait même que je suis, il y a en moi une autonomie que philosophiquement, personne ne peut atteindre. Et je dirais au terme de ma philosophie que seul Dieu peut atteindre. Et à première vue, je dis personne ne peut l'atteindre. Je suis. Donc mon être, je connais mon être, c'est mon secret. Vous voyez, c'est intéressant parce que tout de suite, il y a quelque chose que personne ne peut atteindre dans mon je suis. Un ami pourrait me dire, je te connais bien. Vous répondrez, non, non, tu ne me connais pas. Non, je suis. Quand vous dites je suis, vous dites quelque chose que personne ne peut atteindre. Vous comprenez que c'est intéressant. Parce que là, j'ai donc un point de départ de mon autonomie. Mon autonomie, c'est justement d'affirmer quelque chose que je suis unique à affirmer. Et personne ne peut atteindre ça. Donc j'ai la connaissance de quelque chose où je suis parfaitement autonome. Et cette connaissance du « je suis » où je suis parfaitement autonome, me fait bien connaître mon être, mais ne me fait pas connaître l'être. Tandis que la connaissance du ceci est a cet grand avantage, c'est que le ceci est relatif à être. Et donc, c'est la connaissance de l'être qui passe avant. Je crois qu'on peut tous comprendre ça. Et c'est capital de le comprendre. Parce que c'est la seule façon de ne pas être hégélien. Je crois. Je crois que c'est la seule façon de ne pas être hégélien. D'affirmer qu'il y a quelque chose avant mon « je suis », il y a la connaissance de l'être. Et la connaissance de « je suis » devient relative à celle de l'être.